Morning Edition from NPR News.
Das sieht hin, San Pinter aus.
France Inter, le 18.
Et ce soir, la question qu'on a envie de poser à notre premier invité, c'est: Pékin a-t-il définitivement et résolument remodelé Hong Kong à son image? Que subsiste-t-il des désirs de démocratie et des promesses d'autonomie alors que la prestation de serment des patriotes de l'Assemblée semble signer une mise au pas irréversible? Le bruit du monde est au Burkina et vous verrez comment en quelques mois les djihadistes ont intégralement désorganisé l'agriculture, donc le grenier, le garde-manger aussi des Burkinabés. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Eugénie a trouvé des manifestations autour du prix du gaz au Kazakhstan. Une histoire incroyable de croquis en Chine et puis des vinyles donc de musique africaine. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec une honte au Parlement jordanien et une petite fierté en Italie. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four, comment l'inflation de fou en Turquie pèse sur Erdogan. Le monde est vasté, on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Antoine Bondaz.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous enseignez aussi à Sciences Po. Je le disais, c'est le dernier épisode dans le temps, mais tellement symbolique, a montré à quel point Pékin donc a mis la main désormais sur Hong Kong, le Conseil législatif. J'y mets des guillemets, on y reviendra parce qu'on sait dans quelles conditions le Conseil législatif est arrivé là où il est, mais il a en tout cas prêté serment hier, fait uniquement de ce qu'on appelle des patriotes. Donc je repose ma question, est-ce que c'est au fond le point d'orgue d'une année 2021 qui aurait été marquée par ça ? Définitivement, Hong Kong désormais est au pas. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
Très clairement, et l'outil qui a rendu tout cela possible, c'est la loi sur la sécurité nationale adoptée à l'été 2020. Très clairement, aujourd'hui, le concept de un pays, deux systèmes est profondément remis en cause. Et le haut degré d'autonomie qui était pourtant promis à Hong Kong, que ce soit dans la déclaration sino-britannique de 1984, puis dans la loi fondamentale de Hong Kong de 1990, une sorte de constitution pour la ville, tous ces engagements ont été remis en cause et c'est désormais également les libertés publiques qui sont de façon méthodique, de façon systématique, grignotées par Pékin, que ce soit la liberté de presse, on en reparlera sûrement, la liberté d'organisation, la liberté d'association et même désormais la liberté de parole.
Alors on va y venir effectivement à toutes ces libertés qui disparaissent. Juste une question parce que vous venez d'évoquer le un pays deux systèmes qui était censé effectivement être en place jusqu'en 2047. Alors on sait bien que ça n'a aucune importance à ses yeux, mais est-ce que Pékin est hors la loi, de fait, puisque l'autonomie était promise jusqu'en 2045 au moins, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça ?
Alors c'est l'argument qui est notamment mis en avant par les militants pro-démocratie, davantage ceux qui sont malheureusement aujourd'hui à l'étranger que ceux qui sont à Hong Kong, et puis aussi par la majorité des pays occidentaux. C'est le cas notamment depuis plusieurs années, dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre des déclarations du G7, puisque ces pays considèrent que la Chine viole les engagements qui ont été pris en 1984 dans le cadre donc de cette déclaration sino-britannique. Et cette déclaration sino-britannique, elle n'est pas seulement bilatérale, puisqu'elle a été enregistrée en tant qu'instrument juridique au sein des Nations Unies. Et donc ces pays considèrent que la Chine viole ses engagements.
Mais est-ce que la Chine s'en fiche intégralement ou est-ce qu'elle a une réponse toute trouvée à ce genre d'argument ?
Alors la Chine a une réponse toute trouvée, qui est de dire que Hong Kong fait partie de la République populaire de Chine, ce que d'ailleurs personne ne remet en cause, et que la Chine maintient un pays de système puisqu'il continue, de fait, d'y avoir des spécificités dans la région autonome spéciale de Hong Kong, là où il y a une contradiction évidente. C'est que du côté de la plupart des Hongkongais et des Occidentaux notamment, on espérait que le haut degré d'autonomie soit maintenu au maximum, et ce jusqu'en 2047, alors que Pékin considère que c'est la rétrocession de 97 qui permet de fait d'harmoniser progressivement le statut de Hong Kong sur le statut de la Chine continentale.
Alors je parlais tout à l'heure de cette fameuse Assemblée des Patriotes qui a prêté serment, et c'est important de rappeler ce que c'est désormais en fait, parce qu'on se souvient des images qui datent de 2007 où exactement à la même cérémonie on avait vu un certain nombre d'élus pro-démocratie élever la voix. Alors ils ont fait long feu si je puis dire, mais néanmoins il y avait eu ces images très symboliques. Là ils sont 90, il y en a 20 seulement qui ont été élus, les autres ont été nommés, et encore élus dans quelles conditions d'ailleurs ?
Et encore puisque en janvier 2021, Xi Jinping, dans une discussion avec Carrie Lam, la chef exécutive de Hong Kong, annonçait qu'il entendait que ce soit des patriotes qui gouvernent Hong Kong. Cela a conduit en mars 2021 à une loi adoptée par Pékin, qui s'est traduit ensuite dans les faits à Hong Kong, par une évolution du système électoral. Et désormais, il y a un collège qui est en charge de donner une accréditation, si l'on peut dire, de valider les candidatures, qui permet évidemment de filtrer toute personne qui serait considérée comme non-patriote, c'est-à-dire comme potentiellement critique de Pékin. Et comme vous l'avez dit, la cérémonie prestation de serment de 2022 est extrêmement symbolique par rapport à celle de 2016, puisque, encore une fois, aucun des législateurs désormais n'a critiqué Pékin dans la prestation de serment. Et puis surtout, c'est un autre image symbolique, hein, l'emblème de Hong Kong, cette fameuse fleur bahinia blanc sur un fond rouge qui était inscrite sur le mur de ce conseil législatif, a été remplacée aujourd'hui par l'emblème de la République populaire de Chine.
Il y en a un seul des députés qui, semble-t-il, a réussi à contourner un certain nombre d'obstacles, qui s'appelle Ting Shi Wen, et qui est le seul d'ailleurs sur 90 à ne pas avoir signé, soutenu le raid contre Newsstand qui a disparu comme la plupart des journaux démocratiques à Hong Kong. Juste en un mot, c'est qui cet homme? Est-ce que c'est la caution démocratique de Pékin au fond, ou est-ce qu'il a effectivement réussi à passer entre les mailles de certains filets pour être une autre voix?
Alors pas forcément, on a eu beaucoup de commentaires, notamment sur le fait qu'un législateur ait prêté serment en anglais et non pas en cantonais ou comme à de rares exceptions en mandarin. Aujourd'hui, il faut être clair, les législateurs n'ont plus aucune marge de manœuvre politique pour critiquer officiellement, ouvertement Pékin, et c'est une mise en pas qui a été effectuée. La question, même plus largement, c'est aujourd'hui quels sont les espaces, encore une fois, d'expression publique et d'expression
qu'est-ce
libre.
Qu'est-ce qui reste? Je vais vous poser la question. Ouais.
Il n'y a plus aujourd'hui de médias indépendants. Le Apple Daily a mis la clé sous la porte cet été. Ça a été ensuite le cas de Stan News. C'est désormais le cas de Citizen News.
Exactement, ouais, contraint de fermer pour des questions de sécurité.
Exactement, qui rassemblait donc des journalistes d'investigation. C'est le cas désormais de manifestants qui a été en charge de l'organisation des fameuses manifestations de commémoration du 4 juin 89, les événements de Tiananmen. Ouais. Et une de ces militantes a été condamnée hier à plus de 22 mois de prison, et d'autres...
Et elle est courageuse parce qu'elle a dit des choses pendant son procès qu'on a pu voir aujourd'hui, d'autres... c'est une femme courageuse.
Alors, c'était une avocate qui se défendait elle-même, donc elle a pris la parole, mais d'autres chefs d'inculpation risque de lui faire encourir des peines de prison à perpétuité. Et donc, encore une fois, cette loi sur la sécurité nationale, c'est ça le véritable tournant, qui est utilisé désormais par Pékin et par Hong Kong pour mettre au pas toute la société.
Mais pas seulement Hong Kong Citizen News, pas seulement Newsstand, pas seulement tout ça, puisque le New York Times et le Washington Post, qui avaient leur base asiatique à Hong Kong, l'ont désormais transféré à Séoul parce que c'était beaucoup plus facile d'y travailler. Est-ce qu'il reste même dans la presse étrangère une voix qui peut dire ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de Hong Kong?
Alors c'est de plus en plus difficile. Alors les voix étrangères s'expriment de toute façon de façon plus libre que les voix hongkongaises, ça c'est très clair, et que ce soit les correspondants français d'ailleurs en Chine, ou les correspondants américains en Chine, y compris à Hong Kong, se sont exprimés et continuent de couvrir l'actualité de façon extrêmement professionnelle. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de ces espaces d'expression à Hong Kong. On voit même que dans les universités, avec le retrait de monuments qui étaient symbolique et emblématique de la liberté d'expression à Hong Kong, de cette liberté aussi de commémoration et de mémoire sur ce qui s'était passé en Chine continentale, est en train de disparaître. Et aujourd'hui, entre guillemets, l'un des rares endroits, encore aujourd'hui, où on peut commémorer l'histoire de la Chine et l'histoire notamment des mouvements pour la démocratie en Chine, ce n'est désormais plus à Hong Kong, mais peut-être à Taïwan.
Alors, on va y venir à Taïwan aussi dans un instant. Est-ce que vous diriez que le remodelage est donc achevé, j'allais dire à la tibétaine, en fait, c'est-à-dire qu'on gomme les identités, on efface les histoires, on mélange les gens aussi. Est-ce qu'on fait une comparaison de ce genre ou pas?
Alors, je ne pense pas, parce qu'à Hong Kong, même s'il y avait une identité culturelle propre, avec l'utilisation d'une langue, le cantonais, qui n'est pas propre qu'à Hong Kong, qui est propre à la région plus large, à une histoire, évidemment, la colonisation britannique, cette histoire, pour l'instant, n'est pas complètement gommée. Ce qui est gommé, par contre, c'est véritablement les libertés publiques qui étaient garanties en 84 et en 90 et qui devaient l'être jusqu'en 2047. Et sur ce point, il faut bien préciser que l'argument de la Chine est de dire que Hong Kong n'était pas une démocratie pendant la colonisation britannique, et donc que les étrangers, les occidentaux notamment, n'ont pas de remarques à faire. Mais le problème qu'il y a depuis plusieurs années, c'est qu'il y a en réalité une régression dans les libertés publiques. Celles-ci étaient loin d'être parfaites pendant la colonisation britannique. Elles se sont améliorées dans les années 80-90, et on assiste depuis déjà plusieurs années à une régression de ces libertés publiques.
Vous le disiez, il y a eu il y a eu les manifestations de 2019, on se souvient tous de la révolution des parapluies, il y a eu les manifestations qui ont pu être parfois extrêmement fortes, extrêmement violentes, on se souvient des épisodes à l'université notamment après, donc tout ce qui a suivi la loi sécurité, mais on a eu le sentiment à un moment que Pékin voulait pas forcer le passage, il a même laissé Carrie Lam, toujours la même, en un moment assez seule finalement. À quel moment diriez-vous que Pékin a dit c'est bon, assez joué, et a lancé l'énorme machine pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui?
Le tournant, c'est vraiment l'été et l'automne 2019. On l'a vu dans la communication chinoise, par exemple, dans l'effort considérable pour remodeler le débat international sur Hong Kong. Et si on parle beaucoup des loups guerriers, désormais diplomates chinois plus offensifs, notamment sur les réseaux sociaux, en réalité, cela date de l'été 2019 et de la volonté de contrer notamment les éléments de langage évidemment très efficaces des militants pro-démocratie à Hong Kong. Donc il y a eu une décision qui a été prise à ce moment-là, qui s'est traduite ensuite sur le plan institutionnel, début de l'année 2020, par ces annonces de par l'Assemblée nationale populaire chinoise, facilitée évidemment par le contexte pandémique, qui vont faire qu'en mars-avril 2020, les Occidentaux, entre guillemets, se concentraient avant tout et à juste titre sur la pandémie et l'explosion des cas et notamment des décès dans leur pays, plus que sur la situation malheureusement à Hong Kong.
Est-ce que vous diriez que c'est une situation qui désormais est totalement irréversible, ou y a-t-il quelque chose dans, pardon de le dire comme ça, dans les gènes de Hong Kong qui fait que ce sera toujours un endroit particulier et qui peut à nouveau sortir de sa boîte?
La situation est aujourd'hui irréversible, même si l'identité de Hong Kong et son passé ne seront pas complètement gommés. Le problème aujourd'hui, c'est que la société civile de Hong Kong a connu un système davantage démocratique qu'il ne l'est aujourd'hui, et que ce souvenir ne va pas disparaître. Ce qui disparaît par contre, c'est la capacité de le mettre en œuvre et de défendre, entre guillemets, ses libertés publiques de façon publique, justement, à Hong Kong.
Les activistes aujourd'hui, si on veut être activiste hongkongais, on est activiste hongkongais à l'extérieur, j'imagine. On est à Taïwan ou ailleurs.
Alors, faut être très clair, aujourd'hui, soit on est en prison.
Ouais, ou en prison, bien sûr.
Soit on est à l'étranger, alors notamment à Taïwan, mais aussi en Australie, au Canada, aux États-Unis, à Londres. De façon non pas paradoxale, mais il y en a relativement peu au sein de l'Union européenne. Et sur le rôle de l'Union européenne, qui avait pris des mesures dès juillet 2020, on peut reconnaître que ces mesures ont été relativement faibles, et que si des visas ont été accordés ou quelques bourses, l'Union européenne aurait peut-être pu faire davantage, non pas pour sanctionner Hong Kong, mais peut-être pour faciliter au niveau de la société civile de Hong Kong une forme d'expression, en tout cas une continuation des idéaux démocratiques à l'extérieur de Hong Kong.
Mais pensez-vous que nous aurions dû, et nous au sens large, la communauté internationale, insister différemment, parler différemment, aider différemment pour que au moins ce qui était légalement inscrit pour 2047, le reste jusqu'en 2047.
Le problème, c'est que dans le rapport de force actuel entre les États-Unis, plus largement les pays occidentaux et la Chine, ces premiers n'avaient pas les leviers pour faire plier la Chine ou pour empêcher la Chine de prendre des mesures, et que les Occidentaux n'étaient pas prêts à mettre en œuvre des sanctions économiques extrêmement fortes vis-à-vis de la Chine. Sur ces questions-là, comme sur le cas du Xinjiang, on l'avait vu avec les sanctions européennes en mars 2021, il y a une forme d'asymétrie. La Chine est prête à aller beaucoup plus loin que les Occidentaux, et la Chine, dans l'ensemble de ces sujets, cherche à maîtriser l'escalade, et dès qu'il y a une action étrangère, à renchérir de façon beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale, parfois contre-productive, mais qui permet de fait de marquer le rapport de force.
Une fois que les Chinois sont parvenus à ce qu'ils voulaient en Hong Kong, c'est-à-dire je veux voir qu'une tête, et maintenant effectivement il n'y a plus qu'une tête, est-ce qu'on regarde Taïwan différemment? On sait bien que la situation est totalement différente. Ne serait-ce d'ailleurs que les conséquences qui pourraient y avoir si la Chine s'avisait d'avancer vers Taïwan, mais quand même, est-ce qu'on regarde Taïwan différemment désormais que Hong Kong a été mise au pas?
Ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, le Parti communiste chinois a réussi le tour de force de gommer progressivement la spécificité de Hong Kong et d'harmoniser, entre guillemets, la situation dans de nombreuses régions qui avaient un statut spécifique et autonome, que ce soit le Tibet, mais aussi le Xinjiang, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Le cas de Taïwan reste aujourd'hui une des priorités politiques du gouvernement chinois. Ça l'a toujours été, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, le principal problème pour Pékin, c'est non pas qu'il y ait un réveil à Taïwan de la situation. Ça fait assez longtemps, en réalité, que les Taïwanais ne veulent pas d'un pays de système ou qu'ils ne font pas confiance. Et ce qui s'est passé à Hong Kong leur a donné raison. Le principal problème pour Pékin aujourd'hui, c'est que la communauté internationale, notamment les États-Unis, le Japon, l'Australie, les pays de l'Union européenne, parlent beaucoup plus ouvertement de Taïwan et appellent quelque chose de relativement simple. en soi, c'est le maintien de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, puisque c'est nouveau pour l'Union européenne de le faire aussi publiquement. C'est nouveau pour la France de l'assumer à travers des communiqués du G7 ou à travers un communiqué. C'était en août 2021, quelques semaines de l'annonce d'AUKUS avec une déclaration bilatérale avec l'Australie.
Donc ça veut dire qu'effectivement, là, si la Chine s'approche, elle aura de quoi faire. Et puis bon, elle aura de quoi faire. Et puis par ailleurs, le statut de Taïwan n'a rien à voir avec le statut d'Hong Kong. On n'est pas du tout dans le même genre de schéma.
Hong Kong fait partie de la République populaire de Chine. Taïwan aujourd'hui ne fait pas partie de la République populaire de Chine. Taïwan a ses propres institutions et la Chine n'a aucune autorité de fait sur Taïwan. C'est d'ailleurs bien le problème pour Pékin. Taïwan aujourd'hui, c'est de plus en plus un contre-modèle extrêmement gênant pour la République populaire de Chine. Taïwan, c'est une société de culture chinoise avant tout, multiethnique, qui s'est démocratisée de l'intérieur à travers un processus de démocratisation extrêmement important, puisque Taïwan a été pendant des décennies une dictature extrêmement féroce, avec une terreur blanche jusqu'au début des années 80. Et aujourd'hui, le modèle taïwanais est en réalité potentiellement un contre-modèle pour la société chinoise. Et c'est ce qui pose un énorme problème pour Pékin, au-delà d'autres problèmes qui sont évidemment la position stratégique de Taïwan en Asie, et notamment l'accès que permettrait Taïwan au Pacifique pour la Chine.
On entendait, et ce sera la dernière question, Antoine Bondoise, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines seulement, on s'est même posé la question de savoir si oui ou non la Chine allait avancer vers Taïwan. Ça avait fait l'objet de beaucoup de crispations. On n'en entend plus parler. Est-ce que ça existe toujours tout autant à bas bruit, ou est-ce qu'on se dit que chacun s'est recentré vers autre chose en fait ?
Alors ce qui existe à bas bruit, c'est que évidemment les objectifs chinois n'ont pas changé. L'objectif est de conquérir de fait Taïwan, non pas de réunifier, puisque Taïwan n'a jamais fait partie la République populaire de Chine, mais d'unifier, de conquérir Taïwan. La modernisation militaire chinoise continue, notamment les capacités amphibies qui seraient utiles en cas d'invasion de l'île. Et puis, encore une fois, cet objectif demeure. C'est pour ça que la situation à Taïwan, malgré les aléas politiques et évidemment, et c'est bien normal, les entre guillemets vagues successives de tensions, reste un problème fondamental pour la Chine, mais aussi pour les États-Unis et le reste de la communauté internationale.
Antoine Bondoise, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, merci beaucoup, merci vraiment de ces éclaircissements. À bientôt.
Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe au Burkina et vous verrez comment les djihadistes qui bougent depuis le Mali ont totalement désorganisé la production agricole du Burkina. Et puis, la troupe qui vous emmène jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Mougeni.
Le très autoritaire régime kazakh tente de calmer la colère contre le doublement des prix du gaz.
Passons genre dans le monde et c'est vous, Julia Foyce, bonsoir.
Bonsoir, le vent de la révolte contre les violences faites aux femmes souffle désormais jusqu'en Afrique de l'Ouest.
Le monde d'après, Jean-Marc. Bonsoir.
Bonsoir à tous. En Turquie, le président Erdogan est menacé par ce sur quoi il a bâti ses succès. La situation économique, l'inflation galopante, c'est comme au Kazakhstan.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue avec la playlist étrangère de France Inter et les Gabriels, qu'on a déjà entendu ici même, Blame, sur France Inter.
Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. Keep losing still, keep hoping for that when I knew can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Fall down.
not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
Le bruit du monde ce soir est au Burkina Faso. Comme vous le savez, sont venus hélas depuis le Mali des groupes armés terroristes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique au Grand Sahara. Leurs attaques depuis 2015 ont fait plus de 2000 morts, 1 500 000 déplacés. Le Burkina, c'est stratégique, c'est un débouché vers la mer et surtout au sud-ouest du Burkina, il y a ce pays fertile, arrosé. Les terroristes l'ont investi au point qu'en quelques mois, toute la production agricole en a été bouleversée. Et le reste, c'est Agnès Fèvre qui raconte.
Préparer la terre, semer, désherber, suivre la maturation et fuir au moment de récolter. C'est ce à quoi ressemble la saison agricole dans le sud-ouest du Burkina Faso. Dans cette zone à cheval sur trois régions, tout a dégénéré en septembre. Assassinats ciblés, enlèvements, attaques, les groupes djihadistes ont resserré leur emprise sur la population, majoritairement des agriculteurs. Fatou produit du maïs. Dans sa commune, proche de la frontière malienne, ses assaillants sont à peine visibles, mais les routes sont désormais truffées d'engins explosifs improvisés, des mines qui font obstacle à la fois aux travaux champêtres et à l'écoulement des produits sur les marchés.
On ne peut plus sortir comme on veut. Donc pour aller récolter nos céréales au niveau de nos champs.
Chaque fois, tu as dans la tête seulement, est-ce qu'on n'a pas mis mine là-bas? Donc de sorte qu'on ne peut même plus marcher comme on veut. Même aller dans un autre département. Même si tu rencontres quelqu'un qui vient, lui il a peur et toi tu as peur aussi. Et puis ben, ils partent trouver les gens dans les champs, mais ils peuvent vous dire de vous lever. De partir. Ils ne veulent pas que vous cultivez.
Pourquoi?
Je ne sais pas. Même partir à l'église, les gens ont peur.
L'épicentre de cette insécurité se trouve à Mangodara, à une trentaine de kilomètres de la frontière ivoirienne. Une zone de forêt classée où s'abritent les groupes djihadistes. Entre novembre et décembre, Seydou, lui, aurait dû récolter son maïs, dont le sud-ouest du Burkina est la zone de production par excellence, mais aussi du sésame, des semences. Avec l'insécurité, il a sauvé à peine la moitié de sa production. Les djihadistes, selon lui, sont aussi bien des étrangers que des jeunes du cru. Il a pu les croiser lors des contrôles qu'ils imposent sur les routes ou de leurs incursions dans les villages.
Ils viennent même les jours du marché, ils regroupent les gens, ils les font prier. Et ils demandent même qu'ils ont besoin d'un tel, d'un tel. Donc si on sait que tu es un chasseur, parce qu'eux aussi sont avec l'administration, on te cherche. Les gens ont perdu leur vie, même quelques femmes les sont venues les enlever. Donc les gens fuient les villages, même chez moi, mais moi j'ai eu à héberger quelques déplacés, ça vaut 7. Puis en son temps, c'est les écoles que le maire avait réquisitionnées pour les héberger, les églises, tout ça là c'était plein. Ça fait que bon, cette année c'est vraiment difficile. Donc tu as produit, tu ne pourras même pas pouvoir récolter. La famille va vivre dans la famine, la scolarité est bouleversée. Jusqu'à présent, la rentrée n'a pas encore pris. Beaucoup d'écoles sont fermées. Donc des fois, il faut évacuer toi, tes enfants vers une autre zone. Ça coûte cher.
Les groupes armés terroristes disent cibler en priorité les forces de défense et de sécurité et l'administration. Pourtant, agriculteurs et éleveurs paient un lourd tribut à ces violences. Condamnés à regarder leurs récoltes pourrir dans les champs, voire à être brûlés par les djihadistes. Bassia Kadao, président de la Confédération paysanne du Faso.
Bonjour. Quand vous entendez qu'il y a des mines qui sortent, des pommes qui sont en train de partir dans les exploitations, qui sortent sur des mines, et que vous voyez tous les jours, on assassine, on tue des gens qui vont marcher, on les assassine, des gens qui vont vendre leur bétail, on les arrête, on braque, ça donne la chair de poule. Quand on dit qu'il y a une partie du pays qui est coupée, le nord, le centre-nord, l'est, plusieurs régions qui n'arrivent pas à produire, où on a chassé les gens de leur terroir, et que ceux qui avaient pu produire, on brûle les maigres récoltes qui ont pu subsister, qu'est-ce que ça présage?
Ne plus pouvoir cultiver sereinement pose, selon lui, des enjeux de sécurité alimentaire à long terme, à court terme. La faible production agricole fait déjà flamber les prix au marché de Nieneta, de Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, au cœur de cette zone du sud-ouest. Ahmed Tundou et Kadiatou Zera, commerçants.
C'est augmenté. Même maïs là, c'était 12 500, 11 000. Mais ça monte maintenant, et jusqu'à 20 000 même. C'est doublé.
Les clients ont diminué. On ne peut pas vendre ça. Nous-mêmes, on fait, il n'y a rien dedans. On fait pour gagner à manger seulement. Sinon, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a rien dedans. C'est trop cher. Avant, la boîte là, c'était à 400. Maintenant, c'est 700. C'est cher.
Les prix des céréales ont au moins doublé par rapport à leur valeur d'il y a un an et devraient continuer d'augmenter, faute d'offres disponibles. C'est Sédou Sanou, animateur commercial de l'Union provinciale des professionnels agricoles.
Il faut consommer moins maintenant. Si vous mangez au moins c'est un sac, essayez de venir maintenant à la moitié ou bien 60% du sac.
Il faut que les consommateurs se rationnent.
Voilà. Sinon, avec l'insécurité là, bon, les prix ne font qu'augmenter. Alors que le travailleur, son salaire n'est pas augmenté. Donc ça joue sur tout le monde.
Le ministère burkinabé de l'Agriculture exclut le risque de famine. Il parle de pression alimentaire, voire de crise alimentaire. Quant au nouveau Premier ministre, Lassana Azerbo, il a quant à lui évoqué mi-décembre une pénurie alimentaire qu'il a érigée en priorité aux côtés de la lutte antiterroriste.
Agnès Fèvre, pour le reportage, merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est Sébastien Logénie et l'actualité internationale dénichée sous les radars. Eh bien, j'en ai en colère, Sébastien. Nous sommes au Kazakhstan où des manifestations contre le prix du gaz inquiètent le pouvoir.
Oui, quand la hausse des hydrocarbures touche même les dictatures les plus reculées. Ce sont des incidents très rares dans ce pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, tenu depuis d'une main de fer depuis son indépendance en 1991 par un seul homme, Nursultan Nazarbayev, âgé aujourd'hui de 81 ans, au pouvoir depuis 30 ans. Donc, ce week-end, des centaines de personnes se sont rassemblées dans l'ouest du pays pour protester contre le vieux au pouvoir, comme il l'appelle, et surtout pour protester contre le doublement du prix du gaz naturel liquéfié. Manifestations, mais aussi menaces de grève des salariés des grandes exploitations pétrolières de l'ouest du pays. Le pétrole, l'une des principales ressources du pays. Ces menaces de grève ont fait le tour du Kazakhstan. Ce qu'on entend là, c'est un habitant d'Almaty à 2800 km de là où se déroulent les rassemblements. Nous supportons les manifestants, dit cet homme presque seul devant un bâtiment public. Pourquoi, à cause de Nazarbayev, devrions-nous payer le double pour notre gaz? Nous sommes très peu, mais même s'il n'y avait qu'un seul manifestant, ce serait déjà beaucoup. Immédiatement, les policiers l'encerclent, empêchent les journalistes de filmer. Le pouvoir est en fait sur les dents, craint que ce ne soit le début d'un soulèvement et commence déjà à lâcher un peu de l'Est. Une commission sur les prix du gaz a été nommée. Il faut dire qu'en 2011, il y a 10 ans, la région de l'ouest du pays avait été le théâtre de manifestations très violentes contre le pouvoir. À l'époque, la police et l'armée avaient fait 14 morts.
Franchissons donc la frontière, Sébastien, pour nous rendre en Chine ou plutôt y retourner, où l'histoire incroyable là d'un trentenaire qui fait la une des journaux.
Et l'histoire de Li Jingwei, enlevé à sa famille à l'âge de 4 ans et qui a réussi à retrouver sa mère 33 ans après. Tout a commencé juste avant Noël. Li Jingwei décide de raconter son histoire sur les réseaux sociaux. Enlevé par un réseau de kidnappeurs d'enfants, il se retrouve vendu à une autre famille chinoise qui voulait adopter un garçon à l'autre bout du pays. Dans cet appel, il joue un dessin étonnant dans lequel il a reconstitué de mémoire son village d'origine, un croquis naïf avec une école, un pont, une forêt de bambou. Son message va faire le tour du TikTok chinois. Je suis un enfant qui cherche à retrouver sa maison, lance-t-il. J'ai été enlevé par un voisin vers 1989 quand j'avais environ 4 ans. Cette vidéo va tellement tourner en Chine que la police va se saisir de l'affaire et finir par faire le rapprochement avec une mère à la recherche elle aussi de son fils depuis 33 ans. Un test ADN confirme la bonne nouvelle, il est bien son fils. Les retrouvailles sont filmées le 1er janvier par la télévision. Ce qu'on découvre à l'occasion de cette histoire, Fabien, c'est que les enlèvements d'enfants et en particulier des petits garçons sont fréquents en Chine où avoir un fils est traditionnellement très important. En 2015, on estimait à 20 000 le nombre d'enfants enlevés puis vendus à d'autres familles en Chine chaque année.
Allez, on termine avec donc de vieux disques vinyles africains.
qui retrouve la lumière. C'est un véritable trésor musical qu'une jeune femme passionnée d'histoire a décidé de sortir des cartons. Bintou Sela. Sela est la fille d'un très grand producteur de musique africain. C'est le fondateur du label Silhart Records, une sorte de Motown de l'Afrique subsaharienne. C'est cet homme et son label qui vont faire découvrir au grand public le malien Salif Keïta, l'ivoirien Alpha Blondy, la malienne Oumou Sangaré ou le sénégalais Ismaël Lo. Depuis la mort de son père, Bintou Sela est à la tête d'un énorme catalogue de musique africaine des années 80, jusqu'ici sur vinyle et sur CD, et qu'elle veut maintenant numériser afin de le rendre accessible à la nouvelle génération.
Je dirais que l'énorme défi de faire en sorte que tout ce patrimoine musical qui existait sous la forme de vinyle ou même de CD ou de cassette puisse être accessible justement à la jeune génération et puisse être des moyens de revenus pour les musiciens et pour les artistes. Donc il a fallu faire tout un travail de numérisation, de digitalisation, de masterisation pour que tout ce patrimoine musical puisse être écouté sur les plateformes qu'on connaît tous aujourd'hui.
Voilà, comme Orchestra Baobab que l'on entend ici, célèbre groupe sénégalais des années 70. Ce sont plus de 1000 albums produits entre 78 et 2013 qui vont ressortir, un vrai patrimoine qui reprend vie.
Eh ben formidable, merci beaucoup Sébastien, vous allez revenir demain pour le coup. Et je vous laisse partir alors sur un tout autre rythme, on même change de continent. Flavia Coelho, Bossa Muffin, c'est sur France Inter.
Num dia de chuva ele disse, tem que ter, jogar com a sorte, coragem, com um braço forte, oh, jogar com a sorte. Ajudou a descobrir povos desconhecidos que disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo. Consigo conquistar com braço forte, jogo com a minha sorte. Consigo conquistar com braço forte, jogo com a minha sorte.
Allez, c'était Flavia Coelho, pardon, Bossa Muffin sur France Inter. Mesdames, messieurs, et autre genre, rien à voir, voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia qui, chaque semaine, nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. Et 2022, Julia, commence fort, il y a du changement dans l'air avec d'abord cette première, nous sommes en Gambie.
C'était jeudi dernier, il faisait déjà nuit à Serekunda, première ville commerçante du pays. Et tout le long de l'avenue Kairaba, sa principale artère, on entendait ceci. Des femmes et des hommes défilant en fanfare, une bougie à la main pour dénoncer tous ensemble les violences faites aux femmes comme aux filles du pays. Violences dont on commence tout juste à parler là-bas, sans trop savoir, comme le disent les associations gambiennes, si elles sont en pleine explosion ou si, simplement, les oreilles se débouchent autant que les langues se délient en ce moment. En tout cas, la tempête MeToo a bel et bien commencé à souffler sur l'Afrique de l'Ouest, puisque 10 jours plus tôt, des centaines de manifestants défilaient à Dakar et dans une douzaine d'autres villes du Sénégal. Une marche blanche pour dénoncer entre autres l'ampleur des violences conjugales dans le pays, mais également la pratique de l'excision qui, si elle est officiellement interdite, reste très largement répandue, touchant 76% des femmes en Gambie, d'après l'UNICEF, et 25% au Sénégal.
Julia, on enchaîne avec une scène d'anthologie au Parlement jordanien.
Le gouvernement proposait un amendement à la Constitution. Il s'agissait notamment d'ajouter la mention jordanienne à son chapitre 2, chapitre intitulé jusqu'ici « Droits et devoirs des Jordaniens », chapitre qui, entre autres choses, traite de l'égalité citoyenne. Donc, en 2021, certains ont jugé opportun de mentionner l'existence de ce qui reste, disons, l'autre moitié de l'humanité. Avis loin d'être partagé par tous les députés. Dans la salle, on a dit inutile et puis futile. Et puis on a haussé le ton parlant de honte et de déshonneur. Oui, le déshonneur pour le pays d'inscrire explicitement les femmes dans la Constitution. Alors le président du Parlement s'est énervé. Alors il a demandé des excuses à l'opposition qui, elle, a demandé une suspension de séance. Suspension refusée. Alors le ton est encore monté. Les esprits se sont encore échauffés. Pour finir, ils se sont castagnés, Fabienne, physiquement.
Ah ouais, les images sont dingues.
Alors évidemment, débat terminé. Hein, séance ajournée. Ajournée à demain, ce qui nous laisse à peu près 24 heures pour nous demander si, oui ou non, l'écriture inclusive n'est qu'une marotte linguistique de féministes en mal de combat ou si elle a quand même quelques fondements politiques.
Et quand on vous disait que 2022 commençait fort, voici une première également. Julia, ça se passe en Italie.
L'Italie, pays de l'opéra, pays de la Scala, pays de Verdi, mais pas de Verda, hein, visiblement, car jusqu'ici, jamais une femme n'y avait dirigé d'orchestre lyrique, mais jamais. Hein. Alors évidemment, quand l'annonce est tombée, ça a dû souffler dans les trompettes. C'est l'Ukrainienne Oksana Liniv qui désormais dirigera le Teatro Comunale de Bologne. Et c'est un peu la suite logique d'un parcours hors norme. À 43 ans, Liniv fut aussi la première femme à diriger et le Philharmonique de Graz en Autriche et l'indétrônable festival de Bayreuth en Allemagne, aussi indétrônable d'ailleurs que parfaitement hermétique à l'équilibre femmes-hommes. Pendant 145 ans, seuls des hommes ont été autorisés à en conduire l'orchestre, jusqu'à donc toujours la même Oksana Liniv. Alors évidemment, elle n'est pas qu'une femme, hein, elle n'arrive pas à Bologne par hasard, encensée par ses pairs, adulée par le public, réclamée par tous, aussi une passionnée, vibrant, vivant par et pour la musique depuis toujours. Fille et petite fille de musiciens, elle décide à 16 ans qu'elle sera chef d'orchestre et tant pis si dans le monde, à l'époque, aucune femme ne l'est encore. Tant pis si dans son école de musique, tous ses professeurs sont des hommes. L'adolescente se dit qu'elle y arrivera. La suite lui a donné raison. Aujourd'hui, elle déclare « L'égalité entre les femmes et les hommes est devenue un sujet. Toutes celles qui veulent devenir chef ne doivent plus hésiter. Elles doivent y aller et foncer. » Et comme c'est la première chronique de l'année, Fabienne, je n'ouvrirai pas le débat. Oui, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Ça n'est pas une question de volonté, c'est un système qui... Non, je ne le dirai pas. Je dirai juste, allez-y, foncez et surtout, bonne année.
Allez, bonne année à vous aussi, Julia. Vous avez toute l'année pour étaler tout ça, si vous le souhaitez.
Devenir chef d'orchestre.
À mardi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four. Jean-Marc, en Turquie, le président Erdogan est rattrapé par les chiffres en ce début d'année, par les chiffres de l'inflation. Il a dû intervenir publiquement hier soir pour rassurer les Turcs. Mais au bout de presque 20 ans passés au pouvoir, Erdogan semble menacé parce qu'il a longtemps fait sa force, l'économie. Et c'est votre Monde d'après.
Imaginez, vous allez faire vos courses et en moins d'un an, vous voyez le prix du pain augmenter de 50%. Celui de l'huile et de la farine auprès de 100%. Même chose peu ou prou pour les œufs, le sucre, les tomates. Parce qu'en Turquie, ce sont d'abord les produits alimentaires de première nécessité hein, qui flambent. Bien plus encore que la moyenne du chiffre officiel de l'inflation, déjà très élevé, 36% en un an, plus de 10% le mois dernier. La hausse des prix concerne aussi les transports, l'électricité. Et les plus pauvres sont les plus touchés. Et ça fait beaucoup de monde dans cette Turquie de 85 millions d'habitants. Plus de 60% des employés du privé ont un salaire égal ou à peine supérieur au SMIC. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Dans les grandes villes, Istanbul, Ankara, les files d'attente s'allongent devant les kiosque à pain créé dans ces municipalités tenues par l'opposition. Le pain y est vendu à moitié prix. En quelques mois, des dizaines de milliers de commerçants ont mis la clé sous la porte. Ce sont des scènes que l'on ne s'attend pas à voir dans un pays qui est quand même membre du G20. L'explication est double. D'une part, la chute de la monnaie, la livre turque. En un an, elle a perdu la moitié de sa valeur face au dollar. D'autre part, le niveau des taux d'intérêt maintenu au plus bas par le pouvoir d'Erdogan. Mécaniquement, ça favorise les dépenses et l'inflation.
Sauf qu'Erdogan ne bouge pas, qu'il reste droit dans ses bottes.
Ah, il n'en démord pas. Hein. Pas question de changer de politique économique. D'abord, il vante ses autres résultats, non sans raison d'ailleurs. La croissance, près de 10%, un endettement faible, un commerce extérieur florissant, plus 30% en un an. Erdogan vise en fait un modèle à la chinoise porté par la puissance des exportations. Et il persiste donc à maintenir les taux d'intérêt au plus bas, à rebours de la demande des marchés financiers. Ça, c'est pas forcément antipathique en soi. Son objectif mordicus, c'est de créer de la croissance. Et il habille désormais le tout d'un discours religieux. Il ne faut pas augmenter les taux d'intérêt parce que l'usure, l'argent qui rapporte de l'argent, c'est contraire à l'islam. Il ajoute d'ailleurs, l'inflation diminuera dès que possible, si Dieu le veut. Bon, cela dit, en attendant que Dieu se décide, Erdogan est quand même contraint d'agir pour éviter l'explosion sociale. Il a donc d'autorité augmenté le salaire minimum de 50% au 1er janvier. C'est énorme, mais ça sera vite mangé par l'inflation au rythme où ça va. Et puis les fonds publics paient l'addition, les réserves du Trésor ont diminué de moitié. En tout cas, comme toujours, Erdogan ne supporte pas la contestation. En 3 ans, le président turc a quand même viré 3 ministres des Finances et 3 gouverneurs de la Banque Centrale qui voulaient un peu modérer ses ardeurs. Bon, le nouveau ministre, lui, semble obéissant. Il entend même porter plainte contre les journalistes qui osent commenter les mauvais résultats économiques. Et dans le sud du pays, à Antalya, 3 youtubeurs ont même été arrêtés le mois dernier pour avoir osé interroger des passants sur la hausse des prix.
Enfin, tout ça, c'est quand même un pari très très risqué pour le président turc.
Oui, alors les prochaines élections générales en Turquie sont prévues au plus tard dans 18 mois, en juin 2023. C'est encore loin, mais Erdogan, qui atteindra alors les 20 ans au pouvoir, peut perdre si l'économie ne se redresse pas. Et tout indique quand même que l'inflation va se poursuivre, voire s'accroître au niveau mondial cette année. On parlait de la situation au Kazakhstan tout à l'heure avec Sébastien Legénie. Les tensions sociales menacent en Turquie. Quelques manifestations ont déjà eu lieu le mois dernier. Rien de plus pour l'instant, ce qui est presque surprenant. Hein. Un haut diplomate turc nous affirme que ce calme relatif est l'expression de la patience et de la résilience de la population. On peut aussi y voir la peur de la répression. Reste que la situation économique donne du grain à moudre à l'opposition. Pour elle, l'inflation réelle est d'ailleurs maquillée, sous-estimée par les chiffres officiels. Elle dépasserait en fait les 50%. Résultat, plusieurs enquêtes d'opinion publiées ces derniers jours par les instituts Istanbul Economics ou Turkey Report donnent Erdogan perdant contre 2 des figures de l'opposition. Défaite 38-52 contre le maire d'Ankara, Mansour Yavaş, et 40-51 contre le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Erdogan a bâti son succès, on le sait, d'abord sur les résultats économiques, en faisant sortir de la pauvreté des millions de Turcs qui ont accédé aux classes moyennes. C'est aujourd'hui son échec économique qui peut, à l'inverse, provoquer sa perte.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, à demain bien sûr. Le 18-20, ça continue dans un tout petit instant avec le journal d'Hélène Philly d'abord et puis le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous sur France Inter.